Déambulation.
Salut Claire.
Salut.
Tu m'emmènes où?
Je t'emmène voir mes cuves.
Allez. Toi ici, il y a un labo?
Ouais, il y a un labo dans le côté bureau. Du coup, bonjour. Ça nous permet d'analyser nos vins à différents stades. Voilà, dès qu'on a nos raisins, on peut faire des analyses pour voir l'acidité et le taux de sucre. Et puis ensuite, on analyse les moûts, donc les jus de raisin. On va passer de ce côté. Donc le labo, il est là. La salle de dégustation.
On prend ça après.
Ouais.
Alors toi ici, t'es œnologue.
Moi je suis œnologue, mon poste c'est maître de chez. On est deux maîtres de chez. Il y a Didier Leclerc qui est maître de chez côté vin tranquille. Donc il fait les châtillons d'Iwa et les créments de Die. Et moi je m'occupe de la partie vin effervescent. Voilà.
Donc toutes les clairettes.
Toutes les clairettes tradition, les clairettes brutes et les créments, et ben on les fait des deux côtés, en fait.
Ah oui, parce qu'il y a un peu de vin tranquille et un peu de effervescent là-dedans.
Donc là, je te fais passer en production, c'est la dernière...
La chaîne
d'embouteillage, c'est la dernière étape. Donc on le fait un peu dans le désordre, mais on va aller voir la partie réception de l'autre côté.
Et on est où ?
Et on est où ? Alors là, on est dans le bâtiment, dans l'ancien bâtiment de la cave.
Laquelle ?
La cave de Dijayance.
Voilà, c'est ça qu'on n'a pas dit.
Ouais, c'est vrai. Donc, à la base, c'était juste cette partie-là du bâtiment, celle qui est visible de la route. Et puis, au fil des années, ben, ça s'est étendu et du coup, on a toute la partie cuverie vin effervescent qui est de l'autre côté de la voie ferrée. Et c'est là où on va maintenant.
Il y a encore des choses qui arrivent par train ou qui repartent par train?
Non, plus du tout.
Avant, il y avait les bouteilles.
Ouais. Et ça, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est tout par camion.
Pourquoi ? Voilà.
Eh ben, je ne sais pas. Mais je pense que ça fait très très longtemps que ça ne se fait plus. Ça doit être des accords avec la SNCF. On avait ce quai-là qui était... Ouais.
Oui, il est même carrément, il n'y a plus de voie ferrée.
Il n'y a plus de voie ferrée. Voilà, il était dédié à ça. Moi, je suis là depuis 5 ans. Je suis arrivée en 2016.
Donc, il n'y avait déjà plus les livraisons par train.
Il n'y avait plus de livraisons par train. Depuis déjà un bon moment. Alors, on arrive dans le bâtiment vendange vin effervescent.
Avec le fameux quai.
Exactement. Il y a 4 quais de réception pour réceptionner la vendange que nous amènent les coopérateurs, puisqu'on est dans une cave coopérative. Donc, il y a 209 adhérents. Ils travaillent 1200 hectares de vignes. Ça fait beaucoup de raisins à réceptionner ici.
Vous avez calculé combien ça fait chaque année ?
2 kilos de raisins,
ouais.
De tonnes ?
Ouais, de tonnes.
Ah, je ne l'ai plus en tête, le chiffre, mais
beaucoup.
Je pourrais. Beaucoup de tonnes, ouais, voilà. Ça fait à la fin 8 millions de bouteilles quand même. Donc, ils nous amènent leurs raisins ici, on les décharge. Ensuite, donc, ces raisins, ils sont amenés par divers moyens, soit par des tapis, soit par des vis sans fin ou des quais vibrants, pour moins abîmer les raisins. Donc, tout ça, c'est acheminé vers des égrappoirs qui permettent de séparer les grappes de raisins, enfin les raisins, de séparer les raisins des rafles, donc la partie verte de la grappe qui permet de tenir les raisins entre eux. Donc, cette partie herbacée, en fait, on l'élimine pour ne pas avoir de goût vert ou végétaux, voilà, dans les vins.
Tu peux nous expliquer la différence entre les trois moyens de ramener le raisin, justement les tapis, ouais, la vis sans fin et ou par vibration, en fait, c'est quoi qui est recherché?
Alors, ce qu'on recherche, en fait, c'est d'altérer le moins possible les raisins. Donc, la vis sans fin, ça, c'est ce qui altère le plus la qualité de la vendange, en fait, parce que ça écrase un peu les raisins. Donc on
ça
a
presse déjà, quoi.
Ça presse, voilà, et c'est pas la période, enfin c'est pas le moment où on veut avoir de l'oxydation. Donc on veut avoir des baies qui arrivent dans les pressoirs le plus entière possible.
Donc intact. Si vous avez encore des vis sans fin, c'est pour quel objectif?
Alors on n'en a plus qu'un seul quai avec une vis sans fin, c'est parce que c'est le quai qui nous permet de réceptionner la vendange mécanique qui est déjà éraflée.
Ah.
Donc du coup on n'a plus les rafles, on a juste les baies de raisin qui sont en bon état, quoi, en sortie de...
Voilà. Il ne sert plus qu'aux machines.
Voilà, celui-ci il ne sert plus qu'à ça. Les deux autres quais qui sont vibrants, ils sont dédiés à la vendange à la main. Et ensuite donc ils sont éraflés juste après. Voilà, on enlève la partie verte. Et le tapis, il permet de faire notamment les créments ou les petits domaines. Donc en fait, les raisins, ils sont acheminés vers les pressoirs directement par différents tapis qui s'enchaînent. C'est ça qui préserve le plus. Voilà. Après, on va faire dans l'ordre. Donc ensuite, on va aller voir où, quand on est dans les pressoirs, les jus ensuite, ils vont s'écouler par gravité. Ils vont tomber dans des petites cuves qu'on appelle cuves tampons.
Et dans les pressoirs, c'est là qu'il y a une membrane qui vient serrer, là.
Voilà.
Il ne faut pas lâcher sa vendange.
C'est ça. Il y a, il y a des membranes dans les pressoirs pneumatiques. Il y a des membranes qui se gonflent avec de l'air comprimé. Et du coup, les raisins qui sont à l'intérieur de la membrane, ils sont pressés, en fait. Enfin, il y a une montée en pression qui se fait, et c'est comme ça qu'ils sont pressés. Donc c'est pareil, c'est des pressoirs qui respectent les baies, et on évite l'oxydation aussi de nos jus.
C'est quoi ce bruit?
Alors, donc dans les petites cuves qui sont en dessous des pressoirs, il y a des niveaux, enfin, il y a des, comment on appelle ça, des sondes de niveau. Et ces sondes, en fait, elles émettent un espèce de, des ultrasons qui ne sont pas très agréables.
Et toi, tu bosses dans ça régulièrement?
Là, juste pour les vendanges. Et cet endroit, il est hyper bruyant. On est entre les érafloirs qui font du bruit, les quais vibrants qui sont extrêmement bruyants. Et les petits ultrasons, on ne les entend même plus. Voilà.
Ah ouais?
Ouais.
c'est, on en parle de ces conditions de travail. Est-ce que tu penses que c'est un peu...
Eh ben,
extrême,
alors,
dur, vous bossez avec des casques.
Il y a juste cet endroit qui est bruyant, mais par chance, on n'y passe pas beaucoup de temps. Et on a des gros casques qui nous permettent de filtrer les sons. Donc du coup, on arrive à s'entendre parler et à vraiment filtrer.
Excellent.
Ouais. Ouais, super casque. Je vais faire de la pub pour eux, mais...
C'est fait juste pour vous ou c'est quelque chose qu'on trouve?
Non, c'est dans les EPI classiques, mais ouais. Ça coûte un peu cher, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà, et on peut même brancher un câble et entendre le téléphone qui sonne et répondre au téléphone. Donc c'est plutôt chouette, ça permet de travailler dans de bonnes conditions, même si c'est un endroit bien bruyant.
Donc ces cuves, là, tu nous les montres. Donc là, on est sorti de toute la partie presse, etc. Elle passe un moment, le jus va passer un moment ici?
Alors le jus, en fait, il ne fait que circuler dans ces petites cuves. Donc c'est en sortie de pressoir, on tombe par gravité dans ces cuves tampons. Et ensuite, en fait, on a une pompe qui, sur les niveaux de remplissage de la cuve. Et du coup, ça envoie en direct vers la cuverie qu'on va voir derrière. Donc, en fait, les jus, ils transitent et ils sont tout de suite
pourquoi
envoyés.
Pourquoi ils transitent, du coup?
Eh bien, pour tomber par gravité, pour voilà. Pouvoir récupérer les jus et les pomper dans les cuves sans que ça s'oxyde. Parce que notre ouais. Problématique sur des jus de raisin blanc, c'est on craint l'oxydation. Donc ici, on travaille le moins de contact avec l'air. Donc dans ces cuves, dans ces petites cuves, on va mettre de la neige carbonique qui permet de... C'est un gaz qui est lourd, en fait, le CO2. Et donc, il va permettre de créer une couverture, une protection contre l'oxydation. Donc ça ne fait que transiter ici puis s'envoyer dans nos cuves pour être débourbé. On va voir ça.
Sinon, pour éviter l'oxydation, d'habitude, on peut mettre... Il y a des produits, des trucs comme ça, que vous évitez par ces techniques-là?
On met des sulfites, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on en utilise. On en met des petites doses à la réception, mais il faut tout de suite couvrir, enfin faire une couverture, une protection contre l'oxydation. Sinon, les jus, ils arrivent en cuve et ils sont déjà un petit peu oxydés, quoi. Ou voilà, si on veut vraiment pas utiliser de sulfite, il y a différents moyens de protection. Il y a de l'azote, le CO2, qui sont des gaz qui sont plus lourds et qui permettent vraiment d'éviter l'oxydation.
Vous pratiquez le sans sulfite à Jayence ?
Ouais, on pratique le sans sulfite. On a une cuvée sans sulfite. C'est un gros travail, mais ça se fait bien finalement. Et le gros du travail, justement, c'est d'éviter l'oxydation dans ces périodes pré-fermentaires, en fait, avant la fermentation. Du coup, on utilise tous les moyens qu'on peut, dont je parlais tout à l'heure, les couvertures par des gaz lourds. Donc, en fait, tous les transferts qui se font entre les cuves tampons et les cuves de débourbage, ils sont faits sous azote pour justement lutter contre l'oxydation. Et nos cuves, elles sont inertées. Et quand on fait du sans sulfite, on met plus de neige carbonique et on fait vraiment une bonne couverture. Comme ça, il n'y a pas de risque oxydatif.
En gros, donc ça, c'est les cuves de débourbage.
On est dans la cuverie intérieure. Alors, un débourbage, c'est quoi ? On va simplement mettre... les moûts de raisin, donc ce qui sort du pressoir, c'est un petit peu trouble. C'est des jus qui sont chargés en particules comme de la terre, des végétaux, enfin des petites choses. Et simplement en laissant sédimenter les jus par gravité, on fait ce qu'on appelle un débourbage. Donc c'est l'opération, en fait, le débourbage de séparation des jus clairs qui sont à la surface et des bourbes qui sont tombées au fond de la cuve. Pour le muscat, c'est assez contraignant parce que c'est un cépage qui est plein de pectine, donc qui est assez gélatineux, quoi. C'est pas un cépage qui se débourbe, qui se clarifie facilement. Donc ça passe 2 jours. Il faut entre 24 et 48 heures pour faire un débourbage. Et franchement, sur le muscat, en 24 heures, il n'y a pas de résultat, donc ça passe 48 heures dans ces cuves. Et au bout de 48 heures, on a un jus clair à la surface qu'on va séparer, qu'on va envoyer à l'aide d'une pompe vers les cuves qui sont à l'extérieur. Les cuves qui font un peu de froid, beaucoup de froid. Et donc les bourbes, on va les stocker dans une cuve et ensuite on va les filtrer grâce à un filtre spécifique qui s'appelle un filtre rotatif sous vide pour extraire les jus qu'on peut encore récupérer.
Ouais, quand même.
Parce que c'est chargé, mais y a beaucoup de jus encore. Et du coup, on arrive à récupérer quelques milliers d'hectolitres encore grâce à ces bourbes. Et dans les bourbes, c'est l'endroit où on a énormément d'arômes, donc c'est plutôt intéressant de travailler.
Ça, il faut les reprendre pour le goût, quoi.
Voilà, ouais. Donc on en met après une petite touche dans nos assemblages pour avoir... une base assez intéressante au niveau aromatique qu'on peut mettre.
Est-ce que c'est ça qui est la recette, justement ? C'est quelle dose
Alors,
on met ?
Alors, je dirais pas que c'est la recette. La recette, je pense que c'est le muscat qui fait qu'on a tous ces arômes, en fait. Enfin, les bourbes, en tout cas, ça peut être intéressant de travailler les bourbes. On peut faire différentes choses, laisser les vins sur bourbe, justement, pour obtenir plus d'arômes, voilà. Il y a des choses qui peuvent être faites et on le fait pour certaines cuvées. Après, en sortie de filtre, on a une terre qui s'appelle de la perlite, c'est de la poudre de coquillage qui est mélangée avec les boues, on va dire, qui restent, donc la partie solide qu'on a à la fin du process. Et cette terre, elle est pas envoyée en distillation, mais elle peut être répandue dans des champs, dans des cultures, voilà.
Donc elle repart au producteur.
Ouais, exactement. Petit bruit du groupe de froid, parce qu'ici on a du froid. On a du froid de partout.
Ouais, ça c'est un des secrets quand même de l'effervescent.
Il faut du froid, oui, puis surtout pour les vins blancs, il faut que le les températures soient maîtrisées et on fait des fermentations à basse température. C'est aussi le secret de la clairette de Die de Jaillant, c'est qu'on travaille à très très basse température avec des levures indigènes. Et ces levures, elles sont cryophiles, c'est-à-dire qu'elles fermentent à basse température. Du coup, on ne peut pas utiliser des levures du commerce, des levures sèches actives, là, qu'on peut acheter dans le commerce. Souvent, c'est des saccharomyces. C'est révisé, comme pour le pain ou d'autres choses. Et ben, en fait, nous, aux températures de travail de ces levures, en gros, nos levures à nous, elles travaillent à 0 degré. Et des levures du commerce, en dessous de 10-15 degrés, il n'y a pas d'activité. Quoi. Voilà.
Donc, c'est des levures qui sont déjà présentes, en fait, dans les raisins ?
Ouais, alors c'est ça. Elles sont sur la pellicule des raisins, ces levures. Et on est plus sur des souches du varum ou voilà, d'autres souches de levures qui sont vraiment résistantes et qui résistent à des pressions élevées et à des températures très basses. Et c'est elles qui font la particularité aussi de notre méthode. Et on les sélectionne par le froid. C'est-à-dire qu'on baisse les températures
il reste plus que ça,
À zéro dès qu'on arrive dans les cuves extérieures avec nos jus clairs. Et là, on fait en gros une sélection levurienne et on garde les souches les plus résistantes. Voilà. Alors on va voir les cuves dehors.
Il y aurait d'autres levures qui craindraient si on ne descendait pas assez... À ces températures-là ?
Il y a des levures qu'on ne recherche pas, par exemple des Brettanomyces bruxellensis. Je pense qu'à ces températures-là, effectivement, elles sont mortes. Quoi. Ouais, exactement. Et donc, on a un cocktail levurien. En fait, on sélectionne nos souches de levures, mais on n'a pas une levure. On n'a pas une souche du varum. On va avoir différentes... C'est un cocktail. On peut avoir 6 ou 9 souches de levures dans une cuve.
Et ça change rien, si quel nombre il y a fin...
Ça change pas grand-chose. Elles vont faire la fermentation. On n'a jamais d'arrêt de fermentation, on n'a jamais de problématique. De toute façon, on ne va pas au bout de nos fermentations, donc on n'a pas de problème d'arrêt de fermentation. Voilà, elles font leur première partie de fermentation en cuve. Ça se passe bien. Elles sont vraiment pas contraignantes pour ce qu'on leur demande de faire. En tout cas, ça se passe bien. Alors les cuves.
Là on est sur les plus gros modèles.
Ouais, dehors. On est sur des gros modèles de cuves. Elles font 1000 à 1500 hectos, donc ça fait 100 000 litres de jus qui sont stockés dans les cuves une fois que les jus sont clarifiés. Donc on baisse la température à 0 degré à cet endroit-là. Et donc les levures, elles vont se mettre un peu en dormance. On va pas leur demander de fermenter tout de suite. Donc là, on fait notre sélection de levures et ensuite, on augmente les températures et les fermentations, elles démarrent. Alors, on fermente entre 0 et, on va dire, 5 degrés. C'est très, très bas. C'est là où c'est unique au monde. Je crois pas qu'il y ait d'autres caves qui fermentent à si basse température. Et quand on ouvre un bouquin d'œnologie, on nous dit pas que c'est possible de fermenter
Pourquoi ?
À des températures si basses.
Tu l'as pas appris ça ?
À jamais.
Ouais.
Non, et même ça, enfin voilà, ça nous dépasse un peu, quoi. Parce que théoriquement, on nous dit que les levures à ces températures-là, elles sont inefficaces, quoi. Elles sont inactives, elles se mettent en dormance et il ne se passe rien.
Donc comment tu l'expliques ?
Ah, c'est le mystère du terroir de Die. On a des super levures. Bah, elles sont très résistantes au froid, quoi. Voilà. Sont hyper intéressantes.
Alors la légende dans la partie légende de la cave Jaillance nous dit ça, que bon, on a oublié un peu des jarres
dans
le torrent et que du coup ça a quand même fermenté malgré tout.
Ouais.
C'est réel ça ou...
Ah c'est une légende.
C'est une légende, mais du coup à quel moment est-ce que on va dire vous vous rendez compte là dans le process que c'est quand même bien ça qu'il faut faire
À quel moment c'est rendu
Surtout
compte
Surtout si c'est pas initié en plus.
Eh ben oui, alors à la base, la clairette de Die, elle était vinifiée d'une autre manière. C'est-à-dire que pour maîtriser la fermentation, on faisait plein de filtrations. Et en fait, on s'est aperçu que pour diminuer la population de levures, ou en tout cas mettre les levures en dormance, on peut aussi utiliser le froid. Et que ça continue de fermenter. Je pense que voilà, ça c'est, enfin, c'est au fil des années que ça s'est affiné et qu'on a réussi à arriver à ce résultat-là. Mais la légende n'est qu'une légende et il n'y a pas eu de jarre oubliée dans la Drôme. Voilà, je ne crois pas, en tout cas.
on a aucun Romain pour leur demander.
Oui, c'est ça.
Des cuves qui font du froid comme ça, dehors, en plein soleil, est-ce que c'est pas bête?
Ça paraît bête parce qu'en ce moment il fait chaud, mais elles sont vides. Ah. À la base, on faisait des vendanges assez tardives. Hein. C'était plutôt au mois d'octobre, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Aujourd'hui, on vendange en septembre. Tout le mois de septembre, il fait chaud, donc on a besoin de frigories pour refroidir les cuves. Mais plus tard, le jus il est stocké, il reste longtemps dans nos cuves. Et du coup, vu qu'on est à l'extérieur, on profite du froid qu'il peut y avoir en hiver pour justement conserver des températures basses. Donc finalement, on n'a pas besoin de tant d'énergie que ça pour les refroidir.
Donc c'est mieux qu'elles soient dehors.
C'est mieux qu'elles soient dehors, ouais.
Elles sont pleines pendant combien de temps, celles-ci?
Alors, elles vont être pleines entre 3 et 9 mois, on va dire, en moyenne. En gros, nous, on va démarrer les fermentations tranquillement. On va démarrer 2 cuves par semaine pour que je puisse alimenter la chaîne de prise de mousse qui se trouve après. Donc on ne cherche pas à aller trop vite, on fait progressivement en fait pour l'organisation de notre travail, quoi. Donc on augmente les températures, on va commencer à fermenter et quand on arrive à 6% d'alcool, on a à peu près 85 g de sucre résiduel, et ben on va faire une filtration. La filtration, elle va permettre d'éliminer une partie de nos levures pour pas que les bouteilles elles explosent. Parce que, je m'explique, après, on fait un tirage. Donc, on met du jus mi-fermenté dans des bouteilles. Et là, les bouteilles, il ne faut pas qu'elles montent trop en pression. Ouais, et on les ferme avec une capsule de bière.
Et là, elles refermentent.
Et du coup, dans nos caves, on est à 10 degrés. Donc, on passe de entre, voilà, on va dire 0 degré à plus 10. Donc, il faut qu'on ait un petit peu moins de levure.
Ah. On bouge, c'est pas grave.
Oui,
ça bosse à côté.
Ouais. Voilà, il faut pas qu'on ait trop de levure, sinon bah, ça exploserait dans nos caves, quoi. Voilà, donc on fait une filtration, ça nous permet d'enlever une grosse partie des levures, mais d'en conserver pour que la fermentation elle se passe dans de bonnes conditions. Voilà. La fermentation en prise de mousse, donc ce qu'on appelle prise de mousse, c'est qu'on est dans un récipient qui est fermé, dans une bouteille, et donc le gaz carbonique qui se crée au cours de la fermentation, il reste dans la bouteille, et donc le vin devient effervescent. Pendant cette prise de mousse, les levures elles continuent de consommer des sucres et de les transformer en alcool. Du coup, on gagne 1,5% d'alcool environ. Donc, on passe de 6 à 7,5% en alcool. Et elles consomment des sucres. Donc, on était à 85 grammes de sucre et on termine à 55 en moyenne. 60, voilà. Ça dépend un peu de leur rendement de
voilà, ce qui est le but recherché.
Ce qui est le
but
recherché.
Un taux d'alcool autour de 8 et... Ouais. Dans exactement. Les 50%
dessus. Ouais, exactement. C'est ça qu'on cherche pour une clairette tradition. Après, pour les clairettes brutes et les créments, c'est différent et c'est d'autres méthodes de vinification. Quand même, le gros du volume ici, c'est la clairette tradition.
Ouais, en ratio, tu saurais dire.
Et ben en fait, on fait 95% de la clairette tradition. Ouais. Voilà. Et de la brute. Clairette brute et tradition, ça doit représenter 95% des volumes. Le Châtillon, alors sur 1200 hectares de vignes, on a 31 hectares qui sont dédiés au Châtillon. Donc c'est très peu. Tout le reste, c'est pour faire de la tradition, de la clairette brute et du crémant. Là, c'est bruyant parce qu'il y a les travaux sur la voie ferrée.
Ouais, ça n'a rien à voir avec la cave.
Non, mais on est quand même coupé en deux par une ligne de chemin de fer.
C'est rigolo ça ou pas? Toutes les passerelles, les machins.
Ouais, alors c'est rigolo.
Pour le travail.
Et bah, c'est un peu contraignant. On fait beaucoup de kilomètres quand on travaille à Jaillance.
C'est vrai?
Ouais. On fait que marcher. Et c'est sympa.
Et vous avez pas les petits. Les boîtes, tu sais, où ils ont des.
Non, on n'a pas ça.
Non, pas ça.
Non, on a des fenwicks, mais on a des vélos aussi.
Ah oui.
Ouais, ouais, si on veut, mais non, on n'a pas, ça encore. De trottinette électrique, ce serait bien.
Patron, si tu nous écoutes.
Voilà. du coup, on arrive à la chaîne d'embouteillage prise de mousse. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on a... donc, je suis allée un peu vite tout à l'heure. J'ai expliqué qu'il y avait une première partie de fermentation en bouteille, et une deuxième en cuve et une deuxième en bouteille. Et donc là, on est sur la chaîne d'embouteillage qui permet de passer de la cuve à la bouteille. Donc voilà, on a un bec de tirage, on a une rinceuse, des becs de tirage et ensuite une capsuleuse. Donc on capsule avec des capsules de bière. C'est toujours pareil, on évite l'oxydation, ça va plutôt vite. C'est, voilà. Et puis ensuite on récupère nos bouteilles sur la chaîne et il y a un gros robot qui permet en fait de prendre les bouteilles et de les coucher. Et de les stocker dans des caisses en bois pour qu'elles soient stockées ensuite dans les caves qui sont réfrigérées. Voilà,
on
va aller les voir.
Il y a pas un délire où on tourne dans les caves un peu là ? Il y a des robots qui les tournent.
Alors les robots qui tournent les bouteilles, c'est pour le crémant.
Ah.
Pour la tradition, on a une autre méthode.
Au moins tu bosses dans le frais quoi, c'est quand même pas mal ça.
Ouais.
Ah là il fait carrément bon.
Alors voilà, là on est dans une cave de stockage. On a à peu près on a beaucoup de bouteilles. On a à peu près 20 millions de bouteilles qui sont stockées, en tout cas qui peuvent être stockées dans ce bâtiment. La température, elle est de 11-12 degrés max. Et du coup, nos bouteilles, elles fermentent. Les levures, elles sont contentes ici. Elles ont un peu plus chaud que dans nos cuves. Donc... La deuxième partie de fermentation se passe tranquillement. Voilà, on va récupérer nos bouteilles en fin de stockage prise de mousse. C'est 4 mois minimum, mais ça peut être plus. Et du coup, on va récupérer des bouteilles qui ont fini leur fermentation. Il y a trop de pression, donc les levures, elles meurent. Elles ne peuvent pas survivre à des conditions trop extrêmes.
Donc ça s'arrête tout seul.
Voilà. Soit c'est le taux d'alcool qui tue les levures, soit c'est la pression. En fait, elles s'intoxiquent avec ce qu'elles produisent. C'est assez absurde, mais voilà, c'est la vie d'une levure. Quoi.
C'est l'environnement clos en fait qui fait ça. C'est-à-dire que si elles étaient, elles iraient au bout d'un process où elles mourraient aussi de plus avoir rien à manger.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, elles sont mortes à la fin de cette période sur latte, parce qu'on dit stockage sur latte, ça veut dire que les bouteilles sont couchées et restent stockées quelques mois.
Et alors qu'on dit qu'il ne faut jamais la coucher, la bouteille de clairette, en fait, après.
Eh bien, après, oui, mais pour cette phase de fermentation, c'est mieux. Il y a une plus grosse surface d'échange entre les levures qui sont au fond de la bouteille et la bouteille. C'est bien qu'elle soit couchée à ce stade-là. Et donc, à la fin, on va vouloir éliminer le dépôt qui a été créé. Et pour l'éliminer, en fait, on va vider les bouteilles. On va faire une filtration, une deuxième filtration. Et cette filtration, la particularité, c'est qu'elle est isobare. C'est-à-dire qu'on perd une partie de la pression, mais on conserve une pression dans notre bouteille, pour notre bouteille finale. Et donc, on a des filtres spécifiques qui sont sous pression. Et des cuves, pareil, qui sont sous pression.
Voilà, et là, dans la chaîne, ça perce la capsule.
Ça
vraiment,
perce
c'est le
la capsule, ça vide les bouteilles dans des cuves isobares. Et ensuite, ça va être filtré, toujours en isobare. Et tout de suite, ça va être embouteillé. Et là, ça va être la mise en bouteille finale. Donc, on capsule avec un bouchon en liège. Et on fait l'étiquetage et les bouteilles, elles sont prêtes. Voilà, c'est la dernière étape.
Bon, on sort d'ici ce qu'il y a du bruit, mais c'est dommage, hein. C'est tellement bon.
Voilà, pour la
purée de tradition.
On pourrait faire un petit peu juste le crément s'il y a deux, trois spécificités.
On peut faire un petit topo sur le crément. La vinification, c'est un peu la même que, enfin, c'est la même que pour un champagne. On l'appelait méthode champenoise. Je crois qu'en 56, on n'a plus le droit de l'appeler méthode champenoise. C'est réservé à la zone d'appellation de champagne. Et du coup, on l'appelle méthode traditionnelle. On fait comme tout à l'heure, dans l'ordre, on presse les raisins, on obtient les jus, on les clarifie, on les met en cuve. Et cette fois, on ne régule pas la température de manière extrême. On laisse les levures fermenter. On fait une fermentation complète. Donc, on arrive sur un vin blanc sec. C'est le vin de base. Ce vin, on va lui rajouter une liqueur qui s'appelle la liqueur de tirage avant la mise en bouteille.
Donc on part sur un cépage clairette au départ.
Alors c'est clairette aligotée pour l'encépagement et un petit peu une touche de muscat. Et dans la liqueur, on ne rajoute que du sucre et des levures pour faire une deuxième fermentation dans la bouteille. On dissout le sucre dans du jus, dans du vin de base, donc le vin de base classique, quoi, avec l'aligoté. Et donc cette liqueur, elle va permettre donc de redémarrer une partie de fermentation en bouteille. Donc quand on va stocker les bouteilles, comme tout à l'heure pour la clairette dans les caves pour faire la prise de mousse, on va obtenir aussi 1,5% d'alcool supplémentaire et environ 24 grammes de sucre qui vont être consommés, donc qu'on va perdre. Et du coup, on obtient un vin qui est plutôt à 12,5 à la fin et qui est un vin blanc sec. C'est-à-dire qu'on consomme tous les sucres. Après, il n'y a plus de sucre. Vous avez peut-être déjà vu en champagne, pour l'élimination du dépôt de levure, on mettait les bouteilles la tête en bas sur des pupitres de remuage et on remuait d'un quart de tour les bouteilles à la main plusieurs fois par jour, ce qui permettait aux levures de descendre dans le goulot et ensuite on les éliminait. Aujourd'hui, on a d'autres méthodes. On a des remueurs mécaniques. C'est des caisses en métal qui tournent et du coup, on fait le remuage plus facilement. C'est un gyropalette du coup qui tourne et qui fait tourner une caisse en métal. Et du coup, à la fin, la bouteille, elle est sur pointe, la tête en bas, et il y a le dépôt de levure dans le goulot. Donc pour l'éliminer, c'est simple. En fait, on trempe les bouteilles dans une solution à moins 20 degrés, parce que ça crée un glaçon dans la capsule. Et puis, en décapsulant, il y a de la pression dans ma bouteille, donc du coup, le petit glaçon, il va être expulsé. Et ensuite, on refait le niveau avec du vin, et puis on rajoute une liqueur, la liqueur d'expédition. Là, c'est un peu le secret de l'œnologue. Dans cette liqueur, il met un petit peu de sucre, il met du vin de base, et puis d'autres choses, des fois. C'est là le secret, ouais. En champagne, on peut mettre... Il y en a qui mettent un peu de cognac, il y en a qui font... différentes choses pour que...
Donc toi, tu peux pas nous lâcher le secret de Giants ?
Non.
Voilà.
Je ne peux pas. Voilà pour
ça,
le crément.
C'est un secret que vous transmettez, excuse-moi, d'œnologues en œnologues qui suivent pour garder une typicité de la marque Giants, ou est-ce que tu as le droit, toi, à innover ?
Eh bien, en général, on se transmet les choses et puis après, on fait évoluer quand on veut aller dans d'autres directions. Mais il y a quand même une grosse partie de transmission et de savoir-faire qu'on doit se transmettre entre œnologues, quoi. Voilà.
La marge de liberté là-dedans, la création de nouveaux produits ?
Alors, elle existe, on fait différents essais, on avance quand même sur plein de projets différents. Et puis après, en fonction de ce que les consommateurs veulent ou ne veulent pas, on sort différents produits, quoi. Je ne sais pas, dans les choses qui sont sorties récemment, on a une cuvée sans sulfite, on a eu des vins vegan, puis maintenant, en fait, on fait plus que des vins qui sont vegan.
Vin vegan, c'est parce que c'est le collage là, avec les œufs.
C'est ça. Il y avait des collages qu'on a abandonnés pour des protéines végétales, du coup, qui sont plus... plus saine, il y a moins de risques d'allergie ou de choses comme ça.
Il y a des cuvées que vous avez abandonnées ?
Oui, il y en a eu une, la Grande Tradition, par exemple, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Oui, ça arrive que des cuvées disparaissent et qu'on en crée des nouvelles, mais globalement, on n'est plus sur de la création de nouvelles cuvées. Et on a de plus en plus de produits différents dans la gamme aujourd'hui.
Donc, c'est quoi ton boulot du coup? Tu goûtes à quel stade? Comment
Alors,
tu sais? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Pendant les vendanges, je goûte deux fois les jus par. Enfin, tous les jours, je goûte mes cuves deux fois. Ça me permet de savoir quand ça rentre, est-ce que c'est pas un peu oxydé, est-ce que, enfin, en gros, le but de l'œnologue, c'est de goûter pour éviter tout défaut, toute problématique. Donc on déguste voilà plusieurs fois au cours de la journée.
Plutôt des sucres, mais voilà, au début c'est très sucré. Quoi.
Ouais, au début c'est très très sucré. On goûte des jus une grosse partie de l'année ou des jus en fermentation, donc ça reste toujours assez sucré. On s'y habitue. Au début c'est sympa, après c'est dur. Et...
Après c'est écœurant.
Après c'est un peu écœurant à la longue, mais ça va. On s'habitue. Et puis voilà, on sélectionne aussi. Pendant les vendanges, enfin, on va faire différentes cuvées. En tout cas, on va voir un petit peu...
Mais ça, tu le sais comment? Quand les raisins arrivent en goûtant les différentes presses?
Alors, quand les raisins arrivent, ça peut être mélangé entre différents producteurs. Mais on a quand même pas mal de sélections parcellaires pour donner des cuvées qui vont être séparées et vinifiées séparément.
Du coup, ça, c'est un boulot que tu fais toi aussi? Tu vas les repérer sur...
Ouais, en partenariat avec le service adhérent de la cave. Du coup, on va être plusieurs à déguster les baies, aller sur les parcelles, faire des repérages. Et ensuite, quand ça arrive à la cave... et les jus sont pressés, moi je peux aller déguster directement sur les cuves et puis voir un petit peu ce que ça donne et les orienter derrière pour mes assemblages, quoi. Voilà. Mais il y a déjà plein de sélections qui ont été faites et donc différentes cuvées, voilà, il y a plein de domaines différents à la cave, donc voilà.
Qu'est-ce qui se passe quand tu goûtes quelque chose qui est en train de vriller?
Alors il faut réagir rapidement. Bon, souvent c'est pas que ça vrille pendant les vendanges, ça peut arriver que par exemple pendant un débourbage je sente quelque chose qui me plaît pas trop, et il faut être réactif, il faut sulfiter un peu plus, il faut débourber rapidement la cuve, mais globalement j'ai jamais eu de problème, quoi, de grosses problématiques ou de cuves qui partent en sucette, non. Justement, on est là pour que ça n'arrive pas. On fait des analyses et du coup le labo nous donne des résultats rapidement et ça permet d'être hyper réactif. Ok, on n'a pas mis assez de sulfite sur cette cuve, on en rajoute une petite touche et ça part pas en cacahuète, quoi.
Il n'y a pas de gros déchets, quoi, de gros...
Non, jamais.
Jamais.
On
l'air,
on croise
100
les doigts. Non, ça n'arrive jamais. Franchement, non, on fait tout pour que ça n'arrive pas aussi. Et puis, on est très présent à la déguste. La dégustation, ça permet quand même de donner plein de réponses, en fait, sur ce qui peut se passer dans le vin. Et du coup, ça nous oriente énormément pour savoir ce qu'on va faire ou ne pas faire sur cette cuve-là.
Il faut être un nez. Tiens, on rentre dans ton travail d'œnologue. Tu parles de plein de réponses, mais je ne saurais même pas te poser quelles questions vous pouvez bien vous poser.
Par exemple, un vin qui fermente, il va être réducteur, c'est-à-dire que les levures, elles vont manquer soit d'oxygène, soit de nutriments. Alors, leurs nutriments, c'est souvent de l'azote, donc on en retrouve naturellement dans les raisins, mais certains raisins peuvent être carencés, et du coup, la levure, elle va souffrir, et elle va se mettre à faire des composés soufrés, donc qui sont désagréables, c'est un peu l'œuf pourri, enfin, ça peut sentir hyper fort, quoi. Ou le chou, par exemple. Et du coup...
Tu te rends pas malade à goûter des trucs?
Non, alors tu le sens, c'est au nez. Des fois, tu passes devant ta cuve, tu dis « Ah ok, elle est en train de réduire là, il faut que je sois réactif. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sent une réduction, et on va lui apporter de l'oxygène et des nutriments azotés. Voilà, simplement. Et souvent, c'est juste de l'oxygène. On fait un remontage au bac, c'est-à-dire qu'on brasse la cuve en incorporant de l'oxygène naturellement, quoi, un peu jaillir le jus dans un bac, et du coup ça fait rentrer de l'oxygène, et du coup la levure elle a ce qu'elle veut, quoi, et elle va mieux, et ça, on va dire qu'on arrive à contourner le problème hyper simplement, quoi, avec une méthode très simple. C'est ce genre de choses qu'il faut sentir. Ouais, il y a d'autres choses. Il peut y avoir l'oxydation, il peut y avoir plein de choses. Mais globalement, on sent directement ce qui se passe et les déviances qu'il peut y avoir sur des vins. Quoi. En tout cas, on est formé pour ça. On est formé à ça.
Et tu disais finalement, tu bosses pas tant que ça dans le labo.
Ouais. Donc dans c'est le labo, j'y bosse pas tant que ça. Nous, on leur amène les bouteilles tous les matins pour voir où en sont nos fermentations ou faire une analyse sur un vin qu'on vient de filtrer, qui va être envoyé en prise de mousse pour savoir si tout va bien et s'il correspond, s'il rentre dans tous les critères qu'on souhaite avoir sur telle ou telle cuvée. Donc en fait, non, j'y passe pas énormément de temps. On peut y déguster aussi des vins qui sont finis, que eux ont analysé. Donc du coup, on passe tous les jours pour déguster, quand même au laboratoire. Mais je passe beaucoup plus de temps dans ma cuverie à goûter mes vins et puis à orienter un peu le travail.
À quel moment tu sais que le vin est prêt à être commercialisé?
Ben en fait, il y a une durée. Il doit passer 4 mois en prise de mousse. Donc, on va dire qu'après 5 mois de fermentation, il peut être commercialisé. Voilà. C'est une durée. C'est dans
quoi
le décret d'appellation. Ouais. On nous dit que le vin doit passer
ce temps-là
en prise de mousse. Donc, ça peut aller très vite ou ça peut prendre plus de temps. Ça dépend de nos levures, de comment elles fermentent. Parce qu'à 0 degré, elles ne fermentent pas toutes à la même vitesse. Et du coup, une cuvée peut prendre plus de temps qu'une autre, juste pour des raisons naturelles, en fait, de levures qui prennent un peu plus de temps.
Voilà, mais donc on peut rester plus que 5 mois.
Oui, bien plus. Oui, oui. Oui, ça peut.
Donc déjà, les créments, on sait qu'ils restent.
Ça peut passer un an largement, une clairette, sur latte et tout ça, avant d'être commercialisé. Un crément, ça dure un petit peu plus longtemps.
Ouais.
Ouais. Et l'élevage sur latte, sur un crément, permet de vraiment affiner la bulle, donner des vins plus fins, plus délicats. Donc on a intérêt à aller sur des temps de latte plus longs que sur une tradition. Le muscat, c'est pas un cépage qui vieillit très bien, donc on évite de rester trop sur latte. Voilà. C'est vraiment des orientations différentes, quoi.
L'occasion de dire aux consommatrices, consommateurs, que c'est pas la peine de les garder non plus, les clairettes.
Non, les clairettes tradition, on les garde pas pendant 6 ans chez soi, on les boit rapidement et on va
ça
en racheter.
Ça ne se bonifie pas.
Ça ne se bonifie pas, exactement. Il faut les boire rapidement, sinon après on change d'arôme, on est sur des arômes un peu plus lourds, ça fait un peu pâte de coin, alors ceux qui aiment bien, ils apprécient. Mais c'est pas vraiment ce qui est recherché, on recherche plus de la fraîcheur, du fruit... le côté rose, litchi, pêche, citronné, enfin voilà, des arômes un peu plus frais, quoi.
Là, maintenant, tu fais quoi, là? T'attends un peu? T'as des moments de tranquillité
Dans l'année, on a des moments plus calmes. C'est le moment le plus calme de l'année. On fait tous les nettoyages, donc il faut nettoyer toutes les cuves, réparer tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est pas si calme. Mais on brasse moins de vin, enfin en tout cas on est moins en train de pomper du vin et de faire des transferts. Il y a quasiment tout qui a été mis en bouteille, donc on est un peu plus tranquille en cuvée.
Avec Claire Gary, œnologue ici à la cave Jaillance, c'est quoi ta cuvée préférée et décris-la nous.
Je crois que ma cuvée préférée en ce moment c'est la cuvée sans sulfite. Déjà parce qu'elle n'a pas de sulfite et puis parce qu'elle est hyper fraîche, elle est très très bonne. Donc voilà, je vous invite à aller la goûter pour vous faire une idée. Si tu veux, on fait un tour au caveau aussi.
Ah bah oui, on peut.
Si c'est ouvert, c'est pas grave.
Bonjour.
Bonjour.
Non mais sinon, c'est peut-être un peu tôt pour boire de la clarette.
Ouais, tu peux... Ah non,
c'est bon.
C'est presque midi, on peut boire une petite clarette. Pas de soucis. Si tu veux goûter.
Bah la sans sulfite, moi je la connais pas, je crois.
Eh ben allons.
Ah ouais, allons-y. Bonjour.
J'ai voulais te parler de la cuvée Cybelle. C'est la cuvée qui est allégée en sucre. En fait, on a poussé un petit peu plus la fermentation. Du coup, on a moins de sucre résiduel à la fin dans la bouteille. Et on a un petit peu plus d'alcool. Et du coup, c'est un équilibre qui est différent. Et pour les gens qui sont plus créments que Clairet de Trane, c'est assez sympa. C'est un peu plus frais, quoi. Un peu différent. On peut le goûter aussi.
C'est un peu les nouveautés là, que de ces dernières années, quoi, on va dire.
Ouais. C'est, ça fait un an à peu près qu'on fait...
Il y avait l'icône encore avant aussi. Qui était...
Ouais, l'icône est toujours, existe toujours. C'est la cuvée haut de gamme. Elle a une grosse sélection parcellaire et il y a pas mal de travail fait dessus pour...
C'est du grain à grain.
Ouais, c'est un peu du grain à grain. Mais oui, une grosse protection contre l'oxydation. Ensuite, on travaille avec les bourbes justement pour obtenir des arômes plus frais, plus délicats. Et voilà, du coup, une cuvée qui est vraiment intéressante. Voilà, donc ça c'est une nouveauté, pas vraiment, je crois que c'est 2010 la création de l'icône, donc ça commence à faire, mais ça, voilà, ça reste une cuvée assez sympa. La cuvée sans sulfite, elle s'appelle cuvée Flore, ici au caveau. Pourquoi ?
Qui trouve les noms ?
Je trouve les noms, alors les noms, c'est le service marketing. Donc moi je suis mal placée pour répondre à cette question.
Vous ne pouvez pas agir en tant que nologue quand même, tu t'es...
Sur le nom des cuvées...
Ouais, t'as passé du temps dessus.
Des fois on passe du temps autour d'une table tous à discuter et faire un brainstorming, mais globalement moi je reste quand même plus proche de mes cuves que des bureaux et des réunions. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi la cuvée fait.
Allez, ben on goûte alors. C'est en Chine, ça fait un bruit sympa ça. Alors toi tu craches tout le temps, t'as pas le droit de boire.
Alors moi je crache tout le temps, je ne bois plus parce que... En crachant, on a quand même accès à plus d'arômes. Et puis, il y a aussi une raison logique, c'est qu'au bout de 40-20, on est sous, quoi. Donc, ça marche plus très bien pour analyser. Et on se fait des grosses séances de dégustation. Du coup, il faut rester sobre.
Alors, qu'est-ce que t'en dis, là ?
Le nez, il est un peu vanillé. C'est assez frais. Un peu citronné aussi. Mais la bouche, on a de la pêche blanche, toujours ce côté un peu vanillé, noix de coco.
Et qu'est-ce que le sans sulfite va amener du coup là pour toi ? À part que de plus en plus de gens sont allergiques, le vivent mal, mal à la tête.
C'est ça. Déjà, oui, voilà, il y a une grosse demande commerciale sur le sans sulfite. Et puis, au niveau... en fait, les sulfites vont changer un petit peu les arômes qu'on va trouver dans les vins. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment de la fraîcheur du raisin. Et de le conserver. On a l'impression de croquer un fruit. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux goûter autre chose ? Peut-être la fameuse cuvée Cybelle qui est allégée en sucre.
Tu parlais, ouais. Allez. Ah, moi j'ai bu le verre en entier, j'ai rien craché.
Il faut, hein.
Et toi tu bois quoi ?
Du sirop de cerise.
Ah bon.
C'est vrai que la couleur peut porter à confusion. De toute façon, les gens croient que je me suis servi au cubit.
Un grand rouge de.
Un bon grand rouge, t'as rien mangé là. Bon, ça a fait interview ?
Bah ouais.
T'es quelle star là. Déjà que putain, j'étais impressionné. Là, voilà. En plus, même les médias se déplacent pour toi.
Bah, ça doit passer quand même. Il passe un peu quand même dans d'autres médias. Genre les télés,
oui,
les trucs comme ça.
Pas forcément moi, c'est, souvent c'est Philippe qui répond.
Ou Nicolas.
Ou Nicolas, clairement.
Ce sont les directeurs qui répondent.
Moi je fais plus les visites de OCFPP à. Au lycée.
Ouais, moi pareil. Je pense que je fais plus ça avec
toutes ces choses quoi.
C'est bien que ce soit toi qui réponde là cette fois, tu penses?
Et ben ça change et puis du coup je vous donne plus une connaissance technique quoi.
C'est un vrai regard, moi c'est pas. C'est vraiment t'es au plus près toi.
Bah c'est sûr que je suis au plus près du produit, ouais, je baigne dedans.
Tu t'es baigné dedans?
Je me suis déjà baigné dedans, oui. Ça arrive, des fois, sans le vouloir. Mais oui, ça arrive de ramasser des raisins à la pelle et du coup d'avoir l'impression de baigner dedans ou de faire un décuvage de vin rouge et du coup on est dans une cuve de rouge et il faut sortir les raisins qui ont fini de fermenter. Du coup, tu baignes un peu dedans aussi, quoi. Ouais.
Est-ce que pour faire ton travail d'œnologue, tu dois t'astreindre à une certaine hygiène de vie Par exemple, pour parler de boire, est-ce que tu peux quand même picoler
Il faut éviter café, cigarettes, parfums, toutes les choses qui peuvent modifier un peu le goût. Je sais pas, manger de l'ail par exemple, ça va changer aussi pas mal les perceptions pour bien déguster. Après...
En gros, t'as que 2 jours dans la semaine où tu peux faire un peu quoi.
C'est ça, le week-end. Non, après on peut boire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, mais quand on est au travail, c'est sûr qu'on crache, ça c'est clair. Sinon, on sent bien moins les arômes en fait, on s'habitue à déguster en crachant. Et souvent, on déguste vers 11h du matin, c'est le moment où on commence à avoir faim, et notre palais il est plus sensible, et on va vraiment aller à la recherche des arômes, quoi. Quand il est 14h, qu'on a fini de manger et qu'on est sur la digestion, bah, ça fonctionne pas. Bien moins bien.
C'est vraiment sympa ça. Moi j'aime bien.
Ouais, ça c'est très bon.
C'est pas la clarette brute, mais c'est un bien entre-deux là.
C'est bien entre deux et puis on a plein d'arômes, c'est assez exubérant quoi. C'est pas
oui.
Un peu pivoine, rose, c'est plein de fleurs quoi. Et c'est très sympa. Du coup il y a plus d'acidité en fin de bouche.
Qui te harcèle?
Qui me harcèle au téléphone? Le dépôt logistique. On est pas mal sollicité par plein de gens. Et pour déguster, pour plein de choses, quoi. Pour recevoir du monde, la radio. C'est chouette.
Allez, okay. On se quitte sur cette si belle. Merci Claire.
Ouais, merci à toi.